Le 22 janvier 85.
Je voudrais terminer avec vous cette question de la relation. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais il faut bien mettre un terme, hein. Voir encore quelques aspects importants sur ce que représente la relation. Alors je vous disais la dernière fois qu'il fallait bien comprendre les divers fondements des relations pour préciser les divers types de relations. Alors, nous avons, par le point de vue de la quantité et de la qualité, je ne reviens pas là-dessus, nous avons les fondements qui viennent de l'action et de la passion. Quant à l'action de pâtir, ou celle qui opère effectivement, elle fonde des types particuliers de relations. Celui qui pâtit est en relation de dépendance à l'égard de celui qui agit sur lui. C'est bien évident. Quand on vous marche sur les pieds, vous êtes en relation avec celui qui agit sur vous. Une relation, celui qui pâtit et celui qui agit. C'est une relation qui n'est plus réciproque. Et c'est ça justement le caractère très particulier de ce type de relation. Les relations de similitude, les relations d'unité, d'égalité ou d'inégalité sont des relations réciproques. Tandis qu'au contraire là, ce sont des relations qui ne sont plus réciproques et qui par le fait même n'est plus aussi pure, plus aussi parfaite. Quelque chose d'un peu bancal dans ce type de relation. Et c'est important justement de comprendre comment ce type de relation qui est très très fréquent, la relation qui existe entre le maître et l'esclave, la relation qui existe entre le professeur et ses étudiants, la relation qui existe entre un père de famille et ses enfants, la relation qui peut exister même à l'intérieur de l'amitié, puisque nous sommes partis de là. Il y a toujours une certaine inégalité dans l'amitié. Il y en a toujours un qui est plus actif et l'autre qui est plus passif. Toujours. Il n'y a jamais la similitude absolue. Il y a toujours une certaine complémentarité. Et puisqu'il y a une complémentarité, il y a donc toujours un plus actif, l'autre plus passif. Dans un domaine, c'est l'un actif. Dans l'autre domaine, c'est l'inverse. Et donc, on est en présence d'une relation qui n'est plus aussi pure. Les deux termes corrélatifs n'ont plus la corrélation absolument parfaite. On est davantage en présence d'un ordre de dépendance, d'un patient à l'égard d'un agent, de la puissance à l'égard de l'acte, qu'en face d'une relation pure, d'autres éléments interviennent et transforme la pure relation de deux termes corrélatifs. Cependant, au-delà de cet ordre de dépendance, le fruit de cette action et de cette passion est une véritable relation de contact mutuel ou de non-contact. Il y a une véritable relation, mais un type particulier qui n'est plus une relation de réciprocité absolue. Vous n'avez qu'à réfléchir tout simplement sur ce que représente ce fait que lorsque quelqu'un subit l'influence d'un autre, donc on est actif, et là, la réaction de celui qui pâtit, il est en relation vis-à-vis de celui qui pâtit. Et vous voyez que le fondement, c'est bien l'action et la passion. Et la conséquence de l'action et de la passion, c'est ce type de dépendance non réciproque. Entre ce qui est mesuré et ce qui mesure, il y a un type spécial de relation. Alors ça, c'est encore autre chose. Alors, c'est plus particulier et c'est quand même très important. Dans la connaissance, il y a une relation entre l'objet connu, la réalité connue, et celui qui connaît cette réalité. Et la réalité connu mesure la connaissance. Et dans la mesure même où la réalité connue mesure la connaissance est mesurée par la réalité connue. Donc vous avez un type particulier de relation entre ce qui est mesuré et ce qui mesure. Une telle relation se fonde sur un certain ordre, car elle n'est pas non plus réciproque. Elle se fonde sur l'ordre qui existe entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte, en ce qui est imparfait et sa perfection et sa fin. La puissance, la capacité de connaître, la puissance de celui qui est capable de connaître, il est en puissance vis-à-vis de l'objet connu. L'objet connu le détermine. Et du fait même qu'il le détermine, il le mesure. Alors là, ce serait très important d'essayer de comprendre cette relation de mesurer et de mesure dans l'ordre de la connaissance. Vous voyez, la vérité est une relation d'adéquation. La définition que donne saint Thomas de la vérité. L'adéquatio intellectus ad rem. L'adéquation de l'intelligence à la réalité. Cette adéquation de l'intelligence à la réalité, c'est une relation. C'est évident que c'est une relation. La vérité est une relation. Une relation de mesurer à mesure. Alors, comprenons bien, ceux qui comprennent un peu la différence qui existe entre l'appréhension et le jugement. Ma relation de mesure à mesurer n'existe qu'au niveau du jugement et n'existe pas au niveau de l'appréhension. Au niveau de l'appréhension, il y a une assimilation. Donc on devient l'autre. Si on devient l'autre, il ne peut pas y avoir de relation de mesurer et de mesure. La relation de mesurer et de mesure existe parfaitement dans le jugement d'existence. Et là où il y a le jugement d'existence. Autrement, il n'y a pas au sens strict de relation de mesurer, mesurer à mesure. C'est vraiment au niveau du jugement d'existence qu'on comprend le mieux que ce que j'affirme, ce que je dis. Donc dans l'énonciation, il y a ce qui est mesuré par la réalité connue. Ce que je dis de cette réalité connue. Cette réalité connue existante joue le rôle de mesure. Et c'est ce qui caractérise le jugement, à la différence de l'appréhension. C'est qu'intervient là cette relation de mesurer une mesure. Et ça, c'est très important, parce qu'au fond, ça montre comment tout le point de vue de la vie de l'intelligence qui se termine dans le problème d'un jugement parfait, le jugement n'est parfait que lorsqu'il est vrai, et quand il a conscience d'être vrai, et quand il a conscience donc d'être vraiment mesuré par la réalité. Vous voyez la difficulté, c'est que pour que la réalité soit la réalité existante, mesure ce qui est connu, il faut donc que l'intelligence, dans l'activité du jugement, soit capable de dépasser le concept pour atteindre la réalité, toucher la réalité. Elle touche la réalité au-delà du concept. C'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas réduire la connaissance uniquement au concept. Le jugement d'existence implique justement ce dépassement du concept pour atteindre la réalité. Et c'est là où on comprend comment l'intelligence saisit, touche ce qui est. Primo cadit in intellectus, ens. Est-ce que c'est au niveau de l'appréhension ou au niveau du jugement ? Très grave interprétation de cette affirmation de saint Thomas. Je vous l'ai déjà dit, il faut le savoir par cœur, ça, hein, puisque saint Thomas le dit 175 fois. Alors si saint Thomas le dit 175 fois, vous devez au moins le savoir par cœur. Primo, je le réécris. Il faut y réfléchir longuement. Primo cadi in interventi ens lens cadit. Primo cadit in interventus ens. Alors traduisez ce qui tombe, cadit. Ce qui tombe dans l'intelligence en premier lieu, c'est ens. Vous avez déjà vu la chute de Hens dans votre intelligence. Regardez la profondeur du puits. C'est un abîme. L'intelligence, c'est un abîme. Un petit caillou. Quand on va en Samarie, on montre que le puits est profond, mais un petit caillou. Alors on attend le caillou tomber, on se dit « Ah, c'est profond ». Et c'est vrai. Et qu'est-ce qui tombe, ce petit caillou? Hens. Hens, c'est-à-dire « id quod est » pour saint Thomas. Id quod est, c'est ce qui est. Alors, ens, ce qui est, il est atteint par le jugement d'existence. Et la première chose qui cadit in intellectus, donc la première chose que l'intelligence touche, mais pour que l'intelligence puisse le toucher, il faut que ça tombe dans l'intelligence. C'est là la très grosse difficulté d'interpréter ce. Cette affirmation de saint Thomas, l'appréhension et le jugement dans ce point de vue, primo cadit in intellectus, ens. Est-ce que ens, c'est ce qui est premièrement appréhendé? Est-ce que ens, c'est ce qui est premièrement jugé? Et ce qui est bon, c'est que les textes de saint Thomas disent les deux. Alors, allez-y. Au moins dans un texte de saint Thomas. Il dit que ce qui est premier connu au niveau de l'appréhension, c'est ens. Et puis après, c'est toujours le jugement, ens. Ce qui est, ça ne peut être atteint que par le point de vue du jugement. Ça ne peut pas être appréhendé. Parce que qu'est-ce qui est appréhendé? C'est l'acuité. Or, ens, ce n'est pas l'acuité. C'est ce qui est. Alors, vous voyez, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que ce cadit, hein, il est très amusant. Parce que c'est, ça tombe dans l'intelligence. C'est appréhendé par l'intelligence, c'est saisi par l'intelligence et c'est touché par l'intelligence. Et ça, c'est propre de Hens. C'est que le Hens est au-delà de cette distinction. Il est au-delà, parce que l'Hens ne peut pas se ramener à l'appréhension. Et l'Hens, il est touché par le jugement. Alors, c'est ce qui est qui mesure ce que l'intelligence saisit. Si vous supprimez le jugement d'existence, il n'y a plus de vérité. Puisque la relation de mesure et mesurée n'existe plus. C'est la réalité qui mesure mon intelligence. Ce n'est pas mon idée. Ce n'est pas ce que je conçois. Ce que je conçois ne mesure pas mon intelligence, puisque c'est l'intelligence elle-même qui le porte en elle-même. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est si important de réfléchir sur ce qu'est la vérité. Et vous voyez que dans, vous voulez exprimer ce qu'est la vérité, vous êtes obligé d'employer une relation de mesure à mesurer. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est l'adéquatio intellectus ad rem. L'adéquation de l'intelligence à la réalité. Mais l'intelligence, comment la comprenez-vous? Ce n'est pas l'intelligence en tant qu'elle est faculté vitale, c'est-à-dire une faculté de vie, et donc qui se meut. Mais c'est l'intelligence en tant qu'elle forme au-dedans d'elle-même un concept, une énonciation, un concept propre au jugement, qui est un concept complexe. L'énonciation. C'est donc l'énonciation qui est mesurée par la réalité. Et l'énonciation est vraie quand elle est mesurée par la réalité. Et je suis capable de comprendre comment mon énonciation est mesurée par la réalité. Oui. J'en ai conscience. Donc vous voyez que c'est intéressant de voir que toute cette philosophie de la relation peut seule vous faire saisir ce qu'est la vérité. Pas la substance. C'est cette relation de mesurer à mesurer, de mesure à mesurer. Je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez que la relation, c'est quand même quelque chose de très, très important au plan philosophique. Au niveau métaphysique, la substance est première. Au niveau critique, la relation est première. Oui, nous retrouvons ce que nous avions dit au point de départ. Que c'est très vrai qu'au niveau critique, la relation est première. Parce que c'est la relation qui fait le lien entre le réel, entre ce qui est connu et ce qui est connu, la réalité connue, et la manière dont je le connais. Donc, tout le domaine de l'intelligibilité, tout le domaine de la forme intentionnelle, c'est la relation. C'est une réalité qui ne peut pas se traduire autrement que la relation. Donc, réfléchissez sur ce point de vue-là pour comprendre l'importance de ce que représente cette relation de mesurer à mesure. Alors, il n'y a pas que là, hein, la relation de mesurer à mesure existe dans beaucoup d'autres domaines. Prenez une œuvre d'art. Une œuvre d'art est mesurée par quoi? Parce que y a l'inverse aussi. Je prends une œuvre d'art. L'œuvre d'art est mesurée par l'idéal. Donc vous avez là deux aspects tout à fait différents. Et c'est les deux pôles de la vie de l'intelligence. Le jugement d'existence, c'est mon intelligence spéculative. C'est mon intelligence, c'est à partir de là que la philosophie va pouvoir se développer. Et donc la réalité là joue le rôle de mesure. Quand il s'agit d'une connaissance artistique, une intelligence qui se développe dans le domaine esthétique. C'est l'œuvre d'art qui est mesurée. Et si l'idéal qui mesure. Ça, c'est capital de comprendre ça. Si vous faites donc de la connaissance esthétique la connaissance tout court, vous voyez tout l'idéalisme qui naît. L'idéalisme, c'est donc tout simplement, je peux le dire au point de vue réflexion, l'idéalisme c'est de considérer que la connaissance artistique est la connaissance. Tout court. On confond telle modalité de l'intelligence avec l'intelligence. Parce que dans la connaissance artistique, l'idéal mesure l'œuvre d'art. L'œuvre d'art d'une autre manière aussi mesure, c'est bien évident, si je suis devant le mesurer. L'œuvre d'art, d'une certaine manière, aussi mesure, puisqu'il y a dans l'œuvre d'art quelque chose qui ne correspondra jamais à l'idéal. Donc on retrouvera une autre relation. C'est pour ça qu'entre l'œuvre d'art et la réalité, il y a à la fois relation de mesure à mesurer et relation de mesurer à mesurer. Alors ça, c'est très important. Parce que ça nous fait comprendre que l'intentionnalité au niveau artistique, elle est réciproque, flux et reflux. Ce que dit Husserl. Et c'est toute la différence entre Husserl et la connaissance de saint Thomas. C'est que pour Husserl, l'intentionnalité est au niveau artistique. Il dit que c'est l'intentionnalité. Donc il y a une double relation. Puisque mesure, mesurer, le mesurer vers la mesure, et la mesure vers la mesure. C'est réciproque. C'est la même chose du côté affectif. Quelle est la vérité dans l'amitié? Quelle est la vérité dans l'amitié? Il y a des amitiés vraies, et des amitiés qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce qui mesure l'amitié? C'est une relation, hein, l'amitié, ça implique une relation. Qu'est-ce qui mesure l'amitié? C'est l'ami qui mesure l'amour de l'autre. On est vrai dans l'amitié quand l'ami mesure mon amour. Le jour où mon amour mesure l'ami, c'est plus l'amitié, c'est une domination. Et d'autre part, puisque l'ami est aussi mon ami, c'est donc une relation réciproque. Vous avez une double relation mesurée-mesurée. Alors ça, c'est très intéressant Parce que quand vous regarderez dans Husserl, vous verrez que l'intentionnalité est dite réciproque, c'est-à-dire impliquant les deux aspects, flux et reflux. Tandis que quand vous êtes dans l'intentionnalité au niveau de la vérité, vous ne pouvez pas découvrir ça. L'énonciation est totalement mesurée par le réel. Alors vous pourrez trouver d'une autre manière une certaine réciprocité en disant que l'énonciation est au niveau de la vie, de l'esprit, et supérieure à la réalité connue. C'est vrai. Alors, en tant qu'il y a une certaine supériorité, vous retrouverez une autre type de relation. Mais c'est surtout du côté artistique et du côté affectif qu'on voit bien cette double relation. Ça, c'est important de réfléchir sur ces relations de mesure et mesurée. C'est là où la relation joue le rôle principal, hein, de bien saisir le point de vue de la relation mesure et mesurée, le saisir à l'intérieur de la connaissance, le saisir à l'intérieur de la connaissance affective. Le saisir à l'intérieur de l'amour. L'amour est-il une relation? L'amour consiste justement à être tendu vers le bien. Le bien suscite en moi l'amour. Alors, l'amour comme tel est une qualité qui me qualifie et qui m'actue. Mais la conséquence de l'amour va mettre une relation de dépendance de celui qui aime à l'égard du bien, à l'égard de son bien. C'est une relation de dépendance. Donc, celui qui aime est vrai dans la mesure où il accepte cette relation de dépendance. Le jour où il n'accepte plus cette relation de dépendance et où l'amour veut dominer, ce n'est plus une relation d'amour. C'est une relation de domination, qui est juste l'inverse. Ça, c'est très important, si on veut être un peu lucide, hein, dans sa vie intellectuelle, dans sa vie affective. Eh bien, toujours tout se ramène aux relations mesurées-mesures. Ou l'inverse. Alors, réfléchissez pour essayer de saisir de l'intérieur ce que ça représente. Alors, on pourrait regarder aussi ce qui serait intéressant. Quant à l'usage qu'on fait d'un outil, il réalise entre nous, c'est l'habitus, hein, c'est pour se demander où il y a des fondements. Nous avons vu que le point de vue de la substance ne peut pas être un fondement. Nous avons vu que la quantité et la qualité sont des fondements. Nous voyons maintenant que l'action et la passion sont des fondements. Et que partout où il y a action et passion, il y a un fondement d'une relation. La connaissance et l'amour fondent des relations. Ça, c'est sûr. Donc, on peut se demander par rapport au temps. On pourrait faire des remarques semblables à propos du temps, qui est, lui aussi, une mesure extrinsèque, mais d'une autre manière, moins immédiate, puisque le temps n'est mesure de la succession de ce qui est mu que grâce à l'intervention de l'intelligence. Ce qui fait que comprendre que le temps n'est pas une mesure absolument parfaite dans son objectivité. Mais je suis mesuré par le temps. Je suis né à telle époque. Ça mesure mon être. C'est évident. Je ne suis pas mesuré, je ne suis pas né au Moyen-Âge. Je peux le regretter. Je ne suis pas né au temps du Christ. Je peux le regretter. Mais ça ne sert à rien de regretter ça. Je suis né à cette époque. À telle époque, au XXe siècle, deuxième partie du XXe siècle, troisième ou quatrième partie du XXe siècle. Hein. Alors, le temps me mesure. Je suis mesuré par le temps. Le temps mesure mon travail. Donc, je retrouve relation mesurée et mesure. Dans tout contrat de travail est impliquée la relation de mesuré et mesure. Mais cette relation de mesure à mesurer fait intervenir, parce que la notion du temps, je ne vais pas entrer dans la question du temps, mais fait intervenir le point de vue de l'intelligence qui met un ordre dans la succession. quant à l'usage qu'on fait d'un outil, il réalise entre l'outil et celui qui s'en sert une relation spéciale, d'un type analogue à celui de la relation de mesurer et de à mesure, et pourtant différente. Il s'agit alors d'une relation de possession, de propriété et d'avoir. Cet outil est mon outil parce que je m'en suis servi. Votre habit est votre habit dans la mesure où vous l'avez porté. Ça, c'est sûr. Il y a un petit quelque chose qui demeure. Pas l'usure, hein, c'est autre chose. Vous l'avez porté, c'est votre habit. Et c'est en dit spontanément, je l'ai porté. Tandis que vous ne pouvez pas dire avant que c'est votre habit, sauf si vous l'avez acheté. Vous voyez la relation différente. Hein, vous avez acheté un habit, vous avez acheté un porte-plume, un stylo, vous avez acheté une auto. Du fait même que vous l'avez acheté, il y a une relation de propriétaire. Une relation de propriétaire, c'est une relation la propriété. Autre chose que ça, vous l'avez acheté, vous avez un droit d'un minimum dessus. Vous l'utilisez, c'est ma vieille pipe, hein, vous l'utilisez. Il y a une autre relation, c'est plus seulement la relation de celui qui l'a acheté, c'est celui qui s'en est servi. Alors, se servir d'un outil fait une nouvelle relation, d'un type particulier, comme se servir d'un habit, fait une nouvelle relation, c'est pas uniquement la relation du propriétaire. Ça, c'est très, très intéressant pour le droit de propriété. Est-ce que le droit de propriété repose uniquement sur l'usage ou le droit de propriété repose sur quelque chose de plus que l'usage? L'usage fonde un droit de propriété. C'est la fameuse question. Hein. Celui qui part sa fortune achète un champ. Et puis celui qui le cultive. Quel est le vrai propriétaire? Celui qui le cultive ou celui qui le possède parce qu'il l'a acheté? Toutes les querelles sont là-dessus, si on essaie de comprendre un tout petit peu. C'est une question de relation. Vous voyez bien, c'est une question de relation. Le droit de propriété est une relation. Et quel est le fondement de ce droit de propriété? Est-ce que c'est la fortune ou est-ce que c'est l'usage? Ça, c'est une très grave question. Et très intéressante. Hein, parce que si vous voulez faire la philosophie du droit de propriété, vous arrivez nécessairement à cela. L'usage vous donne, du fait même que vous usez d'une chose, ça vous donne une certaine relation particulière vis-à-vis de cette chose. Vis-à-vis de votre vêtement, vis-à-vis d'un vêtement qu'on a usé, il y a un droit de propriété, bien évident. Tandis qu'un vêtement tout neuf, on est mal à l'aise dedans. Hein. Vis-à-vis d'un vieux vêtement, oh alors là c'est merveilleux. Ça colle à la peau. Hein. Et la peau colle au vêtement. C'est merveilleux. Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a un droit de propriété, il y a une relation spéciale qui s'est établie. Il y a l'usure, les habits. C'est très difficile à préciser ces choses-là. C'est la relation. C'est très ténu. Et c'est pourtant réel. C'est réel. Il y a quelque chose de réel qui se passe. Et quand il y a un amoncellement de différents vêtements les uns sur les autres, hein, quand c'est des vêtements neufs, il faut les marquer. Quand c'est des vêtements déjà usagés, celui qui le porte saura tout de suite le reconnaître. Pas seulement par la vue, par le toucher. Il connaît. Ah oui, ça c'est mon vêtement, ça c'est ma pipe. Je la connais. Connaissance qui se fait une relation particulière d'un type qui fait que c'est ma pipe, que c'est mon vêtement. Un droit. L'usage donne un droit de propriété. Tandis qu'au contraire, la fortune, c'est conventionnel, hein, purement conventionnel. C'est beaucoup plus lointain. C'est conventionnel d'avoir cette fortune. Oui, c'est très bien, mais au fond, c'est secondaire, c'est pas premier. Le véritable, hein, celui qui a un droit de propriété, c'est celui qui use de la chose. Ça, c'est directement lié, et c'est naturel. L'autre, c'est conventionnel. Oui, ça fait comprendre des révolutions. Ça fait comprendre des révolutions, et c'est une question de relation. Savoir si... Oui, parce que quand le conventionnel devient tellement grand qu'il enveloppe des quantités d'usagers qui sont, eux, réduits à rien, là, vous n'avez aucun droit. J'ai un droit, c'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui connais la chose. L'autre, vous ne connaissez rien du tout. Vous êtes un propriétaire uniquement parce que vous avez beaucoup d'argent. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui l'a acquis, cet argent. Et quand c'est la banque qui a fait beaucoup de petits... C'est très lointain par rapport à la réalité. Donc, vous voyez, ça, c'est des problèmes qui font comprendre ce que c'est que la relation et comment la relation peut aussi s'idéaliser. Parce que ça, c'est la question de la monnaie. C'est une relation que j'ai fabriquée, relation de raison. Je peux fabriquer des relations de raison. Et il y a des relations réelles. Alors, les conflits entre les relations de raison et les relations réelles. La relation de raison, c'est uniquement le point de vue de l'intelligence. C'est la loi. Le conventionnel. Il peut y avoir des lois conventionnelles, il peut y avoir des lois qui se fondent sur la réalité, mais des choses. Alors, c'est le conflit d'une relation de raison et d'une relation réelle. Donc, comprenez qu'il y a là au moins un problème très important et très difficile à préciser. Parce que la relation est quelque chose d'extrêmement ténu. Alors c'est par là que nous allons terminer. Quel rapport y a-t-il entre la relation et la substance? Le vieux philosophe dit que la relation, c'est l'être le plus ténu. C'est-à-dire l'être qu'on saisit le plus difficilement. La quiddité de la relation, le toti enaina de la relation, c'est ce qu'il y a de plus difficile à saisir. Pourquoi? Parce que la substance, nous l'avions déjà vu, la substance, c'est l'autonomie dans l'ordre de l'être. C'est ce qui subsiste. Tandis qu'au contraire, la relation, c'est ce qui est entièrement tourné vers l'autre. Donc vous avez là les deux extrêmes dans la modalité de l'être. Ce qui subsiste en soi et ce qui est totalement tourné vers l'autre. Ça va poser des quantités de problèmes, ça. Parce que vous voyez bien que si je mets la relation en premier lieu, je ne rejoindrai jamais la substance. Si pour moi l'être est avant tout la relation, je ne peux plus rejoindre la substance. Si au contraire je dis que l'être en premier lieu c'est la substance, je peux comprendre la relation. Ça, c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est toujours à partir de là qu'on juge de la vérité d'une pensée, dans la mesure où elle est capable d'expliquer plus de choses. Si je m'enferme dans la relation, vous ne pouvez plus rejoindre la substance. Il y a une espèce de contradiction. Tandis qu'au contraire, si je prends le début par le point de vue de la substance, qui est ce qui subsiste, et la relation, ce qui au contraire, c'est comme l'éclatement de l'être, un être tout entier tourné vers l'autre, alors je peux saisir. Une philosophie de la substance intègre une philosophie de la relation. Une philosophie de la relation n'intègre pas la substance. Alors, quelle est la relation exacte qui existe, ou plus exactement, quel est le lien? Ne disons pas la relation, il faudrait me dire quel est le lien qui existe, quel est le rapport qui existe entre relation et substance. Il y a une telle distinction entre les deux, pour ne pas dire une telle opposition, je ne dis pas opposition, mais je mets entre parenthèses une telle opposition, en réalité une telle distinction dans l'ordre de l'être, allô, allô, autre, autre, l'être en soi, l'être tourné vers l'autre. Il y a une telle distinction qui va si loin que les deux ne peuvent se rencontrer qu'à travers une médiation. Vous savez bien, des êtres trop différents ne se rencontrent que grâce à un médiateur. C'est le propre de la rencontre de deux êtres trop différents. Dans l'ordre de l'amitié, c'est comme ça aussi. Quand je commence à aimer quelqu'un qui est tellement différent de moi, je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais c'est comme ça. C'est plus fort que moi, je suis attiré vers lui, mais il est tellement différent de moi, je ne peux pas lui parler, c'est impossible. Alors j'ai besoin d'un conseiller. J'ai besoin de quelqu'un, dans tous les drames c'est comme ça, j'ai besoin de quelqu'un qui est là et qui sert de métaxu, d'intermédiaire. Parce qu'il y a une telle différence entre nous. Oui, c'est la relation et la substance. Alors il y a une médiation dans l'ordre de l'être. Et la médiation dans l'ordre de l'être, c'est le fondement. Alors là, vous commencez à comprendre la relation qui existe entre ces deux extrêmes dans l'ordre de l'être, subsister dans l'être et éclater dans l'être, être tout entier tourné vers l'autre, n'a rien, n'avoir aucun regard sur soi. C'est ça le art. C'est ça la relation, c'est tourner vers l'autre et ne s'appuyer que sur l'autre et plus du tout sur soi. Ces deux extrêmes dans l'ordre de l'être ne peuvent se comprendre que grâce au fondement. Autrement dit, si j'essaie de comprendre le rapport qui existe entre la relation et la substance, je ne peux le faire que par le fondement. Ce qui est quelque chose de tout à fait particulier et d'unique. Aucune autre modalité de l'être. Aucune autre modalité de l'être n'a besoin d'un intermédiaire pour rejoindre la substance. La relation a besoin d'un intermédiaire pour rejoindre la substance. Ce qui explique pourquoi il peut y avoir des relations de raison. Ce qui explique pourquoi une philosophie de la relation ne pourra jamais assumer la substance. La distance est trop grande. Oui. Une philosophie de la qualité pourrait encore, nous le verrons, assumer la substance. Mais pas une philosophie de la relation. Une philosophie de la relation doit nécessairement éjecter la substance. Parce que la relation ne rejoint la substance que par l'intermédiaire du fondement. C'est le fondement qui fait le lien entre les deux. Alors, n'oublions pas, nous terminerons par là, que lorsqu'il s'agit d'exprimer les liens de dépendance qui existent dans un jugement de sagesse, quand il s'agit d'exprimer les liens qui existent entre la créature et Dieu, je me sers encore de la relation. Très, très curieux. C'est la relation qui va permettre de comprendre le lien de créature à créateur et le lien de créateur à créature. Mais le lien de créateur à créature est une relation de raison. Le lien de créature à créateur est une relation réelle. Alors vous voyez là les deux qui sont nécessaires pour exprimer ce lien de l'infini et du fini. Le fini et l'infini sont reliés entre eux par cette double relation. Relation réelle d'une part, relation de raison d'autre part. Et il faut lier les deux. Alors là, vraiment, je vois comme c'est difficile pour mon intelligence de saisir ce que représente cette relation de créature à créateur, d'exprimer ce fondement de la création. Quel est le fondement? Posez-vous donc la question, quel est le fondement de cette relation de créateur et créature? Important, parce que c'est la relation d'une certaine manière la plus fondamentale. l'homme en tant que créature. Et la création. Ou le créateur, plus exactement. Le créateur a vis-à-vis de la créature une relation de raison. Et vous comprenez pourquoi. Parce que le créateur étant Dieu, ne peut pas avoir une relation réelle à l'égard de la créature. Puisqu'autrement, la création modifierait Dieu. La création ne peut pas modifier Dieu, c'est impossible, à cause de la simplicité absolue de Dieu. Si Dieu est absolument simple, entre le créateur et la créature, il ne peut y avoir qu'une relation de raison. Et entre la créature et le créateur, il y a une relation réelle. Mais là encore, hein, les deux qui se conjoignent. Et les deux se conjoignent pour essayer d'exprimer ce que représente cette dépendance radicale de la créature à l'égard du créateur. Et on l'exprime par une relation. C'est quand même très important. Donc au niveau religieux, puisque la dépendance du créateur est et fondamental, tout l'aspect religieux va se fonder sur une relation. La métaphysique se fonde sur la substance, et l'attitude religieuse se fonde sur une relation. Et ce qui est vrai, du reste. C'est très vrai. C'est pas l'autonomie qui me fait comprendre le point de vue religieux. C'est cette relation. Cette relation qui n'est pas réciproque, parce que d'un côté c'est une relation de raison, d'autre relation. Quel est le fondement de cette relation? Quel est le fondement de cette relation? C'est quand même important, puisque chaque fois que je suis en face d'une relation, je ne peux la comprendre qu'en précisant la relation. Le fondement d'une relation de raison, le fondement d'une relation de raison, c'est mon intelligence. C'est mon intelligence qui essaie de comprendre comment l'acte créateur de Dieu est un don pur. Et que l'acte créateur ne peut rien ajouter à Dieu. S'il n'ajoute rien à Dieu, cet acte créateur, que je pense, ne peut s'exprimer, ne peut être fondement que d'une relation de raison. Si maintenant je passe du côté de la créature, quel est le fondement de cette relation réelle? C'est laisser participer. Laisser participer n'est pas une relation, mais il fonde une relation réelle. La créature, c'est celle qui participe laisser. C'est ça la définition de la créature. C'est celle qui ne subsiste pas dans son essai. C'est celle qui reçoit l'essai et qui le reçoit pleinement et totalement. Vous vous souvenez, premier jugement de sagesse que nous avions posé, distinction entre essence et existence. Parce que l'essai est participé. Bien, le fondement de cette relation réelle de totale dépendance de la créature à l'égard du créateur, c'est laisser participer. Laisser participer, est-il un accident ou est-il quelque chose de substantiel? Nous avons vu, c'est extrêmement intéressant, nous avons vu que la substance ne peut pas fonder une relation. Alors laisser participer. Et quand je dis que la relation de créature à créateur est une relation radicale, non, c'est accidentel. Je vous mets devant le problème. C'est très important, ça, vous comprenez. C'est quand même très important de saisir quel est ce genre de relation. Il faut aller jusqu'au bout. Et là, nous sommes vraiment en face de la relation ultime. Dans une vision de sagesse, qui est très, très intéressante, parce que tout concourt, oui, relation raison, relation réelle, le fondement laisser participer, leur laisser participer est-il accidentel? La suite au prochain numéro, réfléchissez, parce que c'est très important de réfléchir sur ce que représente cet laisser participer comme fondement de cette relation. grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,